Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado, c'est parti pour une heure, ou presque, d'errance en terre rock, folk, etc. Commençons cette itinérance avec un des plus beaux fleurons de la pop anglaise des années 80, peut-être le plus beau fleuron, et un des plus influents, The Smiths. Pourtant, les Smiths eurent une vie brève, 5 ans, de 1982 à 1987, et 4 albums studio à leur actif, augmentés d'une poignée de live et de compilations. Leur premier album paraît en 1984 et le second lui succède l'année suivante. Insatisfaits par la production du disque The Smiths, qu'ils jugent sans caractère, ils produisent eux-mêmes ce second disque. Il s'appellera Meat is Murder et s'impose vite comme un chef-d'œuvre. L'écriture des Smiths s'offre à présent des échappées belles, plus expressionnistes et politiques, tout en continuant de creuser cette veine intimiste et désenchantée, lucide et assombrie. Dénonciation du libéralisme thatchérien et du conformisme familial, défense du végétarisme s'ajoute à présent à la peinture des tourments du chanteur des Smiths, Morrissey. Pour initier cette émission d'Eldorado, le titre « Well, I Wonder ».
Well, I wonder.
Soyez les bienvenus dans cette émission d'Eldorado. C'était While I Wonder, extrait du second album des Smiths qui paraissait en 1985, s'appelait Meat is Murder et paraissait sur le label Rough Trade Records. Les Smiths naquirent à Manchester en 1983 autour de quatre jeunes hommes issus de familles prolétaires, victimes de la désindustrialisation de ces villes du nord de l'Angleterre. La musique sera leur planche de salut. En ce début des années 80, où le punk a laissé place à une pop synthétique, superficielle, et dont l'unique objet semble être de faire office de musique de fond ou d'offrir un rythme facile à danser, les Smiths nous rappellent que la musique populaire est importante. L'approche savante de la guitare de Johnny Marr, combinée à l'attention portée au texte et à l'interprétation de Morrissey, hisse le groupe au-dessus du lot. Ils régneront véritablement sur le rock anglais jusqu'à leur séparation en 1987. À Manchester, toujours, fort de l'héritage des Smiths, émergera un autre groupe d'importance, les Stone Roses, qui surent mélanger les guitares éclatantes et fières à l'hypnose répétitive de la danse. Leur premier disque est définitif. Il s'appelle The Stone Roses, apparu en 1989 sur le label Silvertone et continue de tourner depuis lors sur les platines et dans nos têtes. Les Stone Roses, tout comme les Smiths, étaient originaires de Manchester. De Manchester également étaient natifs les membres du groupe Joy Division. Tout comme ses successeurs, Joy Division eut une existence brève et influente. Tout comme les deux autres, Joy Division rassembla de jeunes hommes issus de milieux modestes, sans grand avenir, et pour qui la musique fut tout. On se souvient du destin tragique du chanteur Ian Curtis, on se souvient de la basse énorme de Peter Hook, de la batterie martiale de Steve Morris et de la guitare acérée de Bernard Sumner. On se souvient forcément de la première fois qu'on a écouté Joy Division.
No words could explain, no actions did.
Bernard Sumner et Peter Hook grandissent dans la banlieue ouvrière de Salford, à Manchester, où ils fréquentent la même école et la même bande de hooligans. Leur ambition à tous deux est d'échapper au monde du travail. Électrisés par un concert des Sex Pistols à Manchester en été 1976, ils décident aussitôt de former un groupe punk et se mettent en quête d'un chanteur. Une petite annonce affichée au Virgin Megastore de Manchester attire Ian Curtis, un jeune ouvrier dans une usine de coton de Macclesfield, une ville située à une vingtaine de kilomètres au sud. Ainsi, Mishka Assayas raconte-t-il le début de l'histoire du groupe Joy Division à la manière d'une tragédie qui se noue. Très inspirés par le punk, à leur tout début, les musiciens vont vite emmener Joy Division vers d'autres terres plus désolées, lunaires, à l'instar de ce morceau qu'on s'écoutait, The Eternal, extrait de leur second album Closer, qui paraissait en 1980. C'est l'arrivée du quatrième homme, Steve Morris, qui coïncidera avec ce virage stylistique abordé vers 1978. Steve Morris, qui pour acheter sa batterie avait débité tous les meubles de son petit studio pour les vendre comme bois de chauffage. De quoi planter le décor, parfaire la légende. À ce moment-là, le groupe ne s'appelle pas encore Joy Division, mais Warsaw, un nom choisi en référence à Warszawa, une chanson de David Bowie extraite de son disque Low, qui paraissait en 1977. Warszawa ouvrait la face B du disque Low de David Bowie. Titre le plus long du disque, il est emblématique des climats glacés et des terrains désolés qui sont la signature de ce grand disque. Low est le fruit de la collaboration de Bowie avec le claviériste Brian Eno qui, affranchi de son groupe Roxy Music, explore de nouveaux territoires musicaux. Eno sera aux côtés de Bowie pour ce qu'on nommera plus tard la trilogie berlinoise de David Bowie. Low, Heroes, puis Lodger. De cette trilogie, Low est donc le premier épisode et fut enregistré dans le studio du château de Hérouville en France, puis mixé dans les studios Hansa de Berlin-Ouest, ville dans laquelle s'est alors fixé le chanteur. Bowie, comme il avait pu prendre sous son aile un Lou Reed à la dérive au début des années 70, a décidé de relancer la carrière de Iggy Pop, complètement perdu depuis la séparation des Stooges. Iggy et David vivent tous deux à Berlin et ne se quittent plus. Le grand album du retour d'Iggy Pop sera donc produit par David Bowie et, comme Low, naîtra de sessions partagées entre le château de Hérouville, en France, et les studios Hansa de Berlin. Début 77 paraît donc The Idiot, ainsi nommé en référence au roman de Fiodor Dostoïevski. Toutes les chansons sont co-signées David Bowie, Iggy Pop. On retrouve la même atmosphère lourde, quasi claustrophobe, que dans Low, la basse de George Murray, qui entoure de grave les deux disques, n'y est pas pour rien. Extrait de ce disque, The Idiot, China Girl. c'est l'émission de radio Eldorado. En 76, 77, Iggy Pop et David Bowie sont inséparables. Iggy chante sur le disque Low de David, David co-signe et produit le disque The Idiot de Iggy, tous deux vivent à Berlin. En 77, David Bowie tiendra les claviers sur la tournée d'Iggy Pop et produira le second disque en solo d'Iggy, le formidable Lust for Life. De The Idiot, sorti sur le label de Bowie RCA Records, on écoutait China Girl, que Bowie reprendra des années plus tard, en 1983 sur son album Let's Dance. Quand sa petite amie retrouvera Ian Curtis, pendu dans leur appartement, le jeune chanteur de Joy Division, ayant finalement rendu les armes dans son combat contre une dépression tenace, on retrouvera sur sa platine ce disque, The Idiot, d'Iggy Pop. The Idiot signait le grand retour d'Iggy Pop, sa renaissance après des années noires marquées par les drogues et quelques passages par des hôpitaux psychiatriques. The Idiot confia à Iggy Pop, ce fut l'album de la liberté. Et quand on lui posa la question de ses influences, celui-ci répondit « Ce disque pourrait être la rencontre entre James Brown et Kraftwerk. »
Für dich und mich
Fin 1975 en Allemagne, début 1976 en Angleterre, sortait dans les bacs le disque Radio Activity du groupe Kraftwerk. L'influence sur la musique d'alors fut immense. Pour Joy Division, pour Bowie, pour Iggy et pour tant d'autres avant eux, il n'était plus possible de faire de la musique pareille. Kraftwerk, en inventant le concept de musique populaire industrielle, offrait au monde moderne sa bande-son idéale, celle d'un peuple en prise avec l'industrialisation, la déshumanisation, le naufrage écologique annoncé. Kraftwerk est fondé à la fin des années 60 par deux étudiants du conservatoire de Düsseldorf, Ralf Hütter et Florian Schneider. Avant d'explorer les voies synthétiques et ordonnées qui seront leur marque de fabrique, les deux amis s'adonnent à de longues explorations et improvisations instrumentales très influencées par les groupes Tangerine Dream et Can. De ceux-ci et de Can en particulier, Kraftwerk saura garder la préoccupation du collectif. Dans Kraftwerk, comme chez Can, pas d'individualité mise en avant, pas d'incarnation du génie, mais la proposition d'une musique qui dépasse ses créateurs. Vous l'aurez peut-être pressenti, c'est vers le groupe Can que nous allons à présent nous tourner, et avec Can que nous allons nous quitter. 15 minutes, ou presque, dure le morceau Mother Sky, extrait du second disque du groupe Can, Soundtracks, recueil des musiques que le groupe originaire de Cologne put créer pour le cinéma. Mother Sky est un morceau monstre au sein duquel Can put perfectionner son incroyable son, cette pulsation quasi organique d'une basse obsédée et de percussions métronomiques et tribales, ces fulgurances d'une guitare en toute liberté, ce son total et d'une cohérence inouïe. Il fut écrit pour le film Deep End de Jerry Skolimowski qui sortait à la fin des années 60. Merci d'avoir été à l'écoute. Cette émission d'Eldorado et les précédentes, bien sûr, vous pouvez les réécouter sur le site radio-eldorado.fr. Outre les émissions en téléchargement, podcast ou en écoute directe, on peut trouver sur ce site les références de la poignée de morceaux écoutés ensemble chaque semaine. Merci de votre écoute et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.
I'm not afraid to die. scared.